Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Et bien cette semaine, il y a plein de sorties, et bien on se les garde pour la semaine prochaine, voilà c'est décidé. On a voulu parler de sujets qui traitent plus de l'industrie du jeu vidéo, de sa diversité, et c'est pour ça que j'ai deux invités de choc avec moi. Tout d'abord, Morgane. Comment ça va, Morgane?
Mais ça va très bien. Merci, Mélinda, pour l'invitation.
Bienvenue à toi dans cette émission. Présidente de l'association Women in Games, à la tête de l'agence Minuit 12 aussi. Donc, grosse spécialiste jeux vidéo.
Oui.
Mais grosse joueuse aussi, hein, on va
aussi,
dire.
Aussi, tout à fait, oui. Hein,
elle vous parlera de ses recos, vous verrez, c'est du lourd. Et face à toi, Mickaël.
Salut, Mélinda.
Président de l'association Loisirs Numériques. Notre personnalité de l'année, je le dis quand même. Je voulais qu'il vienne avec son Pégase et j'ai oublié de lui demander.
Ça aurait
mais
été
voilà,
un grand plaisir.
Ça aurait été très beau sur le plateau. Tu aurais encore, on a ta présence déjà pour illuminer tout ça. Bah là, on aurait eu le Pégase. On aurait pu l'approcher. C'est un peu comme la Coupe du Monde de foot. Mais voilà, et bien avec eux deux, on va parler diversité, inclusivité, tout ça. Tout ce qui fait la richesse du jeu vidéo. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien ou pas? Vous allez voir, c'est notre gros sujet. Mais en attendant, on va parler de l'actu à chaud. Il y a des choses à se dire. Allez, on se met petite mise en jambe sur le bilan positif du jeu vidéo français. Les chiffres du CEL sont tombés et c'est un petit record pour nous. Plus 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Morgane, c'est beau quand même, on est fiers.
Oui, c'est très très beau. On craignait qu'après l'effet Covid, où on avait eu effectivement deux années très prolifiques pour le jeu vidéo, en tout cas en termes de vente, le marché avait explosé. On craignait qu'il y ait une petite phase de ralentissement. Et en fait, comme tu viens de le dire, on a une année record en 2023. Donc très satisfaisant effectivement.
Le jeu vidéo se porte bien, plus quasiment 10%. On atteint un palier qu'on n'avait jamais atteint. Mais alors c'est intéressant parce que c'est porté par l'écosystème console. Nous sommes un pays de consoleux, il faut se le dire. Plus 24% quand même pour l'économie des consoles. Alors évidemment, quand il y a des consoles, c'est quand même mieux pour jouer. Donc il y a eu aussi, ça aide, l'afflux de PS5 enfin, de Xbox Series, mais aussi
ouais.
des jeux.
Ouais.
Donc beaucoup de jeux. Bon, Mickaël, en plus, toi, on l'a dit, tu travailles chez Ubisoft, vous étiez content quand même.
Ouais, c'est clair. On en a sorti beaucoup en 2023 en plus. Donc,
711 nouveautés consoles cette année pour les joueurs. Alors, il faut quand même savoir, on parlait, juste pour vous donner un chiffre, évidemment, qui est assez symptomatique, plus 72% de ventes de consoles cette année, ça veut dire que la pénurie est terminée. Qu'on joue, mais j'ai une question, on nous parle tout le temps d'inflation, que c'est dur, machin, on joue quand même. C'est quoi? Ça veut dire quoi?
Ben, je pense que globalement, ça reste un loisir qui est sur le long terme. Effectivement, les jeux durent plus longtemps. On a envie quand même aussi de cette variété dans les jeux. Et puis, c'est vrai que 2023, que ce soit chez Ubi ou ailleurs, il y a quand même pléthore de bons jeux. Je trouve que la qualité augmente de dingue. On a aussi ce contenu qui est régulièrement ajouté de la part des éditeurs, des développeurs. Et je pense que ça nous maintient là, quoi qu'il arrive. Même si ça reste de façon ponctuelle, dépendant de son niveau de jeu, ça reste quand même un loisir auquel on s'adonne très, très facilement.
Alors, on voit des chiffres apparaître derrière nous. Donc, je vous ai dit, le marché aujourd'hui des consoles, ça représente 52% de l'écosystème. C'est paradoxalement, les PC qui ont eu tendance à se casser la figure, moins 8,5% pour l'écosystème. Alors, quand je dis écosystème, c'est la partie hardware et la partie software. La partie software se porte excellemment bien sur console et PC parce que, comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de jeux. Les gens ne renouvellent plus leur PC gaming. Et ça, c'est un peu l'information. Tu l'as dit, Morgane, effet Covid. Est-ce que vous faites partie de ceux qui avaient changé leur ordinateur?
Oui.
Pendant le 2020-2021?
Alors, moi, en fait, je me suis constitué un PC pour la sortie de l'Early Access de Baldur's Gate 3.
Ah, t'es vraiment au taquet sur Baldur's Gate 3, toi.
C'était le prétexte, effectivement. Ouais. Du coup, ça m'a servi pendant le Covid également. Mais la France, historiquement, a toujours été un marché de consoles, plus que l'Allemagne, par exemple, qui est un marché PC.
Mais c'est intéressant de voir aussi que c'est les accessoires, plus 20% d'accessoires.
Okay,
et okay, alors est-ce okay. que je pense que ça veut dire que quand on achète un jeu, qu'on est content, qu'on achète Baldur's Gate 3 au hasard, on a envie, si on est sur PC, d'un nouvel écran. Les écrans gaming ont explosé et les manettes. Donc finalement, l'écosystème accessoire est porté par le fait qu'il y ait beaucoup de jeux. Ça vous étonne ou pas du tout? Vous avez renouvelé vos accessoires?
Alors moi, je trouve ça très étonnant parce que c'est vrai que je suis plutôt joueur console et maintenant que je suis équipé... pas besoin particulièrement de changer. J'achète pas particulièrement de matériel complémentaire. Une fois que j'ai mes manettes, pas besoin de VR, pas besoin de choses complémentaires. Donc, je trouve ça très étonnant, ouais.
Alors, ça concerne, j'ai parlé des manettes, mais les casques aussi.
Oui, okay. Alors j'allais dire, oui, les casques, ça m'étonne moins parce que justement, quand tu joues dans un foyer, par exemple, t'as pas forcément envie d'embêter tout le monde avec les sons de ton jeu dans ton salon, surtout qu'on a du télétravail, etc. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Et tout simplement, comme tu le disais, Mickaël, on a des excellents jeux et on veut y jouer dans les meilleures conditions possibles. Et t'as des casques aujourd'hui qui te permettent une expérience immersive qui est incroyable. Et voilà.
Le matériel est devenu premium aussi. Oui. Là, dans les chiffres qui sont donnés, on note que pour une console achetée, 24 millions de consoles en France, hein, quand même, toutes générations confondues en activité, c'est quand même pas mal. 140 euros en accessoires dépensés. Donc, en écran, en casque, comme tu le disais, le matériel est plus premium, le matériel est plus cher aussi.
Oui, c'est vrai.
Ça aide aussi à faire gonfler les chiffres aussi, à 6 milliards. Hein, on va se le dire, les jeux à 80 euros et le casque.
Comme tu le disais, l'inflation, tous les coûts ont augmenté, les matériaux, les cartes graphiques. On a une pénurie de cartes graphiques pour les PC aussi. Peut-être que ça a participé.
Alors, il y a un chiffre qui est intéressant. Si on peut nous remettre l'infographie pour ceux qui regardent l'émission avant. Le marché mobile, l'écosystème mobile, a dépassé en valeur l'écosystème PC. Enfin, ils sont au coude à coude, ça représente 24% chacun du marché. Sachant que sur mobile, les chiffres montrent aussi que 99% des gens téléchargent des jeux qui sont gratuits. Les jeux payants ne font pas spécialement recette. Vous jouez sur mobile ?
Oui.
Alors, je joue sur mobile, mais toujours au même jeu depuis 10 ans. C'est souvent des petits jeux casual.
Vas-y, tu me diras si je te dirai s'il est dans le top 20 des jeux. Non, mais c'est toujours les mêmes. Mais c'est marrant. Les microtransactions, en revanche, et tout ce qui est DLC, microtransactions, l'année dernière, c'est une part qui a baissé. On achète moins et les abonnements. Donc tout ce qui est Xbox Game Pass, PlayStation Plus, Ubisoft Plus peut-être aussi, c'est une part qui baisse. Les gens sont moins intéressés et achètent plus de jeux. Vous trouvez ça logique ou pas? Alors qu'on a vanté les mérites des systèmes d'abonnement à la Netflix, comme on dit.
Non, je ne trouve pas ça logique parce que justement l'offre des catalogues en abonnement est de plus en plus intéressante. Enfin, le Xbox Game Pass...
Ah ben moi, j'en pense que du bien. Donc tu peux y aller.
Les jeux qui sortent Day One maintenant sur le Game Pass, c'est incroyable.
Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à acheter mes jeux. Moi, c'est plus une façon de remercier les créateurs et créatrices de jeux vidéo, de leur dire, voilà, c'est ton jeu compte, donc je te donne ça. Et pour le coup, c'est vrai que les systèmes de Game Pass me parlent un petit peu moins parce qu'il y a un côté buffet où en fait tout est accessible. Et je trouve que ça paupérise un peu l'importance du jeu lui-même, quoi.
Ah, je vois. On sent que tu les vois aussi, les gens faire les jeux, ça doit aider. Le dématérialisé, évidemment, représente désormais une grosse part, 65% des jeux. Quand je dis dématérialisé, là, c'est pour les consoles, les PC. Ça inclut aussi, forcément, de fait, le jeu mobile qui est un peu dématérialisé. Mais le jeu physique fait de la résistance. Il se maintient. En fait, il perd 1%, mais c'est rien. Il se maintient. On a encore envie d'acheter des boîtes aujourd'hui. Alors moi, j'ai plus de place sur mes étagères, donc j'essaye de limiter.
Oui, je pense qu'il y a cet effet, mais il y a aussi tous les jeux qui se font offrir.
Oui.
Tu vois, aux anniversaires, aux fêtes, etc. Et du coup, les parents, les grands-parents vont offrir une boîte et pas.
T'as pas envie d'offrir un code sur un papier ?
Je l'ai déjà fait, Mélinda. C'est horrible parce que tu dois trouver un bel artwork que t'écris avec ta meilleure écriture. Tu fais des petites flèches.
Tu passes plus de temps que d'aller au supermarché du coin acheter ton jeu.
Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est pas le même effet quand tu déballes ta boîte ou quand tu ouvres ta petite enveloppe, quoi.
Est-ce que c'est justement l'essor des collectors aussi? On voit qu'il y a de plus en plus de versions collectors.
Ouais, c'est pas quelque chose qui me parle particulièrement, mais je vois autour de moi, ça passionne. Effectivement, plus les collectors sont premium, comme tu le disais, et plus ça a un effet. Regardez, je suis très très fan de ce jeu-là, et ça marque aussi le temps, quoi. Ça marque un moment où tu étais au maximum de ta passion avec des personnages qui sont encore mieux craftés. Il y a des boîtes qui font ça super bien. C'est classe à regarder aussi, quoi, et à garder à travers le temps.
Alors, sachez que le joueur français a en moyenne 40 ans. Ça, c'est tout confondu. On dit toujours que le mobile fait péter la moyenne. Mais les joueurs assidus comme nous, moyenne d'âge, c'est 38 ans. Donc, mine de rien, ça continue de grimper. Les joueurs, il n'y a pas que des jeunes, en fait, qui jouent. Sachez-le, il y a les vieux comme nous. Je balance. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller sur le site Tech & Co. On vous a préparé plein de choses. Évidemment, le top 20 des jeux qui sont sortis avec, oh surprise, eSports FC 24 en tête. Mais devant, Hogwarts Legacy et Zelda. Mais Zelda, le truc, c'est que Nintendo ne donnant jamais le chiffre dématérialisé, je pense qu'il est plutôt deuxième sur console. Et Diablo 4, en tête sur, le, sur PC. Et alors ça, j'avoue que c'était ma surprise. Je ne pensais pas qu'il avait aussi bien marché.
Non.
Et pas Baldur's Gate, parce qu'ils ne donnent pas les chiffres non plus.
Ah, donc, oui, c'est vrai.
Il faut attendre qu'eux donnent leurs propres chiffres. Ils ne veulent pas donner les chiffres.
Oui, c'est... je suis surprise aussi pour Diablo.
Et oui, c'est ça que je te dis pas de bêtises.
Pour moi, ça a été une sortie éclair. On a vu le jeu beaucoup à un moment donné. Et puis, piou.
On est d'accord. Il n'est pas sorti forcément au meilleur. Si, c'est ça, je ne vous dis pas de bêtises. Normalement, si on met bien l'infographie, je crois que c'est Baldur's Gate. Sinon, je n'ai pas bien préparé mon émission.
Diablo, ouais.
C'est Diablo 4, pardon, et pas Baldur's Gate qui n'a pas de chiffre. Hogwarts Legacy partout.
Ouais.
Oui,
et puis c'est Hogwarts Legacy, c'est un peu la réalisation d'un rêve de voir Harry Potter version open world.
Moi, je suis pas du tout fan d'Harry Potter, mais alors j'ai beaucoup trop d'heures sur ce jeu. En fait, ça m'a éclaté de me balader. Mais alors que j'en ai rien à faire d'Harry Potter.
Ouais.
Mais oui, je pense que c'est le succès du jeu, malgré tous ses défauts, c'est la reconstitution.
Oui.
On va clore cette petite page sur les chiffres. On va parler vite fait d'une petite opération que tu mènes ce week-end, Michael, qui est le Désertbus de l'Espoir. Raconte-nous tout ça. Vas-y, c'est alors, ton instant promo.
Le Désertbus de l'Espoir, donc c'est la 11e édition cette année. Il faut imaginer un marathon sur le jeu le plus ennuyeux du monde. Voilà, vous avez essayé.
Oui, on confirme. J'ai toujours peur de planter le bus à chaque fois.
Mais c'est une angoisse.
Il n'y a rien à faire. C'est génial.
Effectivement, il n'y a rien à faire. Il faut juste conduire ce bus qui est en ligne droite. Et il a un petit problème de direction. Donc, il tangue un petit peu sur le côté. Donc, le but, c'est justement de corriger sa direction. Et puis, d'avoir ce relais entre les personnes qui viennent s'essayer au jeu. C'est l'occasion de discuter d'actualité, de parler des associations qu'on soutient. On soutient l'association Petit Prince, notamment, qui réalise le rêve des enfants gravement malades. Et c'est une bonne occasion de parler et jeux vidéo et de penser à ces jeunes qui ont des rêves. Souvent, c'est autour de Disney. Et puis aussi de réunir la famille. Donc c'est des valeurs qui nous touchent chez Loisirs Numériques. Et voilà, c'est la 11e édition. On espère que ça va être un beau succès.
Et ça commence vendredi 22 mars, ça dure jusqu'à dimanche soir.
C'est ça.
Ça commence à 18h ? Non.
Ça commence à 19h. À 19h, oui, tout à fait.
J'ai un doute, t'as vu,
j'ai un doute aussi. Oui, tout, bon, voilà. Entre 17 et 19.
C'est à suivre sur Twitch, sur la chaîne. Vous trouverez tout sur le compte des Airbus de l'Espoir. Il y a plein de gens qui sont là.
Oui.
Tu as réussi, enfin, toute l'équipe, vous avez réussi à faire un joli casting de personnalités. Les parrains cette année
C'est Brigitte Lecordier et Manu Lévy.
Voilà.
Donc, ils sont des habitués de l'événement. Voilà.
Et c'est parti pour 50 heures de live, à peu près.
Absolument. Ouais, c'est
près,
ça. Hein.
Un truc comme ça. Hein.
Tout pile. 50 heures tout pile, c'est sûr.
Donc, voilà, rejoignez tout le monde sur la chaîne Twitch. Venez discuter, rigoler. C'était très sympa. Moi, j'y étais l'année dernière, j'y serai encore cette année. Et c'est un plaisir.
Ouais, vraiment, c'est l'occasion pour les membres de Loisirs Numériques qui se donnent à fond pour préparer cet événement, de se réunir, de se retrouver. Et surtout, comme tu parlais du Covid, justement, voilà, c'est un événement concret qui est pour la bonne cause en plus. Donc, on en ressort toujours avec les larmes aux yeux. Et voilà, c'est plein d'émotions et plein de bons moments. Voilà.
Tu en parles bien. Très, très bel événement.
Tu en parles bien. On va continuer sur un autre sujet. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Je vais y arriver. Je veux qu'on parle justement de tout ce qui est dans le jeu vidéo, ce qui normalement devrait faire la force du jeu vidéo encore plus, qui est tout ce qui est la diversité, la féminisation aussi. Morgane, je veux que tu nous présentes Women in Games.
Women in Games, c'est une association de professionnels qui a été créée en 2017 avec la volonté de développer la mixité et la diversité au sens large dans les entreprises du jeu vidéo en France. Voilà.
Sacré challenge.
Oui.
Ça ne devrait pas, mais vu dit comme ça, on sait que c'est un sacré challenge.
Oui, en fait, c'est parti vraiment d'un constat qu'il y avait a priori beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les studios et chez les éditeurs. Et donc, à partir de 2018, on a commencé à avoir des chiffres pour étayer cette impression, cette intuition. Et effectivement, en 2018, on n'avait que 15% de femmes dans les studios de jeux de développement. Et en 2022, on est passé à 24% de femmes.
Quand même.
Donc c'est bien. Oui, alors entre 2020 et 2022, on a pris que 2%. On est passé de 22 à 24.
Il y a eu un peu de Covid et de confinement entre-temps aussi dans beaucoup de studios. Ça ne doit pas aider au recrutement.
Non. Bon, après, il y a plein de freins au recrutement des femmes. Voilà. En général, c'est vraiment un sujet qui est assez complexe et assez profond. Mais du coup, c'est passionnant de travailler dessus et on active différents leviers pour essayer de rectifier la tendance. Pas de l'inverser, mais de la rectifier.
Alors, Mickaël, toi, c'est un sujet aussi qui est abordé chez Ubisoft. Alors, redonne-moi ton titre exact là-bas, parce que je suis toujours impressionnée.
Alors, c'est In-Game Social Innovation Manager. Et pour faire simple, c'est de mélanger le sujet caritatif et le jeu vidéo. Donc, on utilise le jeu vidéo pour éduquer, pour faire en sorte de sensibiliser aussi, par exemple, aux questions climatiques, et donc de trouver des moyens intelligents pour parler aux joueuses et aux joueurs et faire en sorte qu'ils aient ce maillage entre les associations, les ONG et parler justement des grands sujets sociétaux et environnementaux.
Voilà. Tu as aussi beaucoup œuvré chez Ubisoft, pour avoir suivi moi ça de loin, pour qu'il y ait aussi plus de diversité.
Oui.
C'était un sujet qui était important.
Oui, pour moi, c'est fondamental. Moi, je suis issu, j'aime bien le dire, de milieu populaire. Enfin, je viens de banlieue parisienne. Et c'est vrai que les métiers du jeu vidéo ne sont pas accessibles si tu n'es pas vraiment passionné. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres métiers où les parents vont nous orienter, que ce soit de médecin, informaticien, dépendant en plus du genre. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est très biaisé, en fait. Donc, le jeu vidéo, pour justement aller vers cette diversité, c'est d'ouvrir justement tant ses chakras personnels que les écoles, les universités, et de montrer en fait tout le panel de métiers qu'il y a, et montrer justement à ces jeunes, peu importe leur milieu, qu'il y a chacune peut trouver sa place en fait. Et en ce sens que c'est d'autant plus important qu'il y a 50% de joueuses et de joueurs, donc il faut que dans les studios, ce soit à l'aune de la diversité qu'il y a dans le monde. Voilà.
Tu avais sorti avec Women in Games une étude l'année dernière, si je ne me trompe pas, fin d'année, sur justement le fait qu'il n'y avait pas assez de femmes et même que la diversité n'était pas assez représentée dans le jeu vidéo. À quel moment on peut faire en sorte que ça bascule? C'est vraiment dès l'école?
Oui, j'allais rebondir sur ce que disait Mickaël. Quand tu t'intéresses à ce sujet de la mixité ou de la diversité dans les entreprises, quand tu commences à détricoter, tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui se passent au moment de l'orientation professionnelle ou scolaire, en fait. Parce que le problème, c'est que les studios aujourd'hui vont te dire « Bah ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup de femmes qui postulent. » Alors, on peut le traiter d'une certaine façon. Mais effectivement, quand tu regardes dans les écoles de jeux vidéo, on n'a pas beaucoup de femmes non plus. On en a 28%. Donc, c'est pas fou. Et là encore, en fonction des catégories de métiers, il y a une grande disparité. Sur les métiers très techniques ou les métiers de design, on n'a que 6% de femmes. Alors que sur les métiers de l'édition, le marketing, etc., on va être plutôt à 50%.
Oui.
Donc il y a aussi une question de métiers qui sont supposés genrés par certaines personnes, et ce sont des biais qui sont entretenus relativement très tôt.
Et j'aimerais rebondir là-dessus que effectivement il y a les stages de troisième et de seconde, et que l'anecdote que j'ai, c'est que j'avais partagé sur LinkedIn ma volonté à soutenir les jeunes filles dans le jeu vidéo. Et tu m'avais transmis un contact d'une maman qui avait sa fille, donc qui était en troisième et qui était passionnée par le narrative design. Donc du coup, je l'ai prise et ça s'est passé merveilleusement bien.
Mais elle n'aurait jamais fait la démarche d'elle-même, la gamine?
Je pense qu'elle était déjà intéressée puisque sa maman est membre de Women in Games.
En fait, il y a un problème de réseau. C'est comme disait Mickaël, quand tu es issu de certains milieux, c'est compliqué d'en sortir. S'il n'y a personne dans ton entourage qui connaît déjà les studios, les rouages, les réseaux, c'est compliqué en fait de trouver rien que son premier stage, son alternance, son premier job. C'est hyper compliqué en fait.
De l'intérêt des associations.
Exactement.
On sait aussi, on parlait des écoles, que le nombre de... Alors, je pense que ça, c'est valable et pour les femmes et tout ce qu'on va dire. Alors, on va appeler ça, c'est pas très beau, j'aime pas, mais tout ce qui est minorité, qu'entre l'entrée et la sortie des écoles, il y a une perte qui est considérable aussi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter ces jeunes, filles et garçons, à aller plus loin dans leur passion, en fait?
En fait, selon moi, il y a une question de système aussi qui peut être écrasant. C'est-à-dire que si tu es la seule fille de ta classe, tu ne te sens pas forcément soutenu parce qu'on va te renvoyer vers le fait que tu es isolé. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre du « il faut tenir mentalement ». Je pense que tu en parleras évidemment beaucoup mieux que moi, mais que ce soit pour les personnes de banlieue aussi, le fait d'être comment dire, d'une communauté, d'une autre. On veut trouver des personnes qui ont un peu le même parcours que nous, qui pourraient nous raconter un peu tout ça. On parle beaucoup de rôle modèle, des personnes qui nous inspirent. Et c'est vrai que peu importe la couleur, si finalement on se rend compte que le milieu est beaucoup trop masculin, on aura tendance à baisser les bras au bout d'un moment. Donc c'est plutôt aux organismes d'accueil de donner tout le terrain pour que les personnes se sentent le mieux possible. Et ça, c'est un travail sur le long cours. Ça reste des efforts permanents.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu. Cette diversité qu'on a du mal à trouver, est-ce que le fait que le jeu vidéo ne la représente pas forcément aussi, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de cercle vicieux qui fait que les plus créatifs ou les plus volontaires se disent « Ouais, mais finalement, le milieu n'a pas envie de refléter qui je suis, ce que je suis, d'où je viens. » Mais on sait qu'aussi, pour mettre cette diversité dans le jeu, il faut qu'on ait les gens. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que le jeu n'a pas déjà, la création du jeu vidéo n'a pas déjà une responsabilité à avoir en mettant plus de diversité, oui, plus de choses comme ça en avant ? Alors, il y a eu des phases où, à un moment, on n'avait que des héroïnes. Enfin, je me souviens, vers 2016, 17, 18, d'un seul coup, il fallait mettre des femmes partout. Alors, il y a eu évidemment une vague de contestation. Ça a été une solution à court terme, je pense que ça a mené. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour vous, Morgane ? Qu'est-ce qu'on fait ?
En fait, moi, ce que je dis beaucoup, c'est que...
On donne des consignes dans les studios en disant...
Alors non. Je prône pas du tout le fait d'avoir une grille avec des cases à cocher. Alors, il me faut une femme, il me faut une personne de la communauté LGBTQIA+. Non, c'est pas comme ça qu'on est créatif.
On a l'impression parfois que certains jeux répondent à des codes comme ça.
Mais de la même façon que tu as les mêmes erreurs qui vont être commises au cinéma ou dans les séries télé. C'est le fait de confondre deux choses. C'est d'avoir juste des tokens à cocher ou bien tu t'intéresses à l'histoire que tu veux raconter et tu prends soin des personnages que tu vas mettre dans ton histoire. Et c'est là où c'est hyper intéressant en fait. C'est que je vais citer au hasard The Last of Us partout ou Horizon, la série Horizon. Tu as des personnages féminins forts qui sont le personnage principal. Mais ce sont des personnages hyper bien écrits, qui ont de la profondeur, qui vont avoir aussi ce côté, c'est pas que des personnes lisses, c'est parfait. Et c'est ce qui fait la force et du personnage et du coup du jeu. Tu t'en fiches de savoir que c'est un homme ou une femme. Ce qui est important, c'est que ton histoire, elle est incroyable et tes personnages le sont aussi.
Oui,
tu es d'accord avec ça ?
Absolument, oui, je pense que c'est hyper important d'avoir cette authenticité que les personnages. On parle beaucoup de suspension d'incrédulité, c'est-à-dire le fait de se projeter dans une histoire, un peu comme on est projeté dans un film ou une série ou un bouquin. C'est que c'est tellement crédible et réaliste dans la façon de restituer les histoires, dans la façon de ressentir les sentiments, les émotions, que pour nous, ça semble, plus que crédible, authentique. Et pour bien le faire, il faut travailler avec les associations, travailler avec les personnes qui sont concernées, parce que c'est elles qui vont pouvoir raconter des histoires qui ne sont pas fake, que les joueuses et les joueurs vont pouvoir s'approprier et se dire je vis une vraie aventure qui a du sens.
Ah. Oui, excuse-moi, mais si tu as un groupe homogène, si tu as un groupe de personnes homogènes qui créent un jeu, quand je dis homogène, c'est souvent des hommes blancs, issus de milieux plutôt favorisés parce qu'ils ont eu les moyens de se payer les formations jeux vidéo, ces personnes auront globalement la même expérience de vie et ça va être compliqué pour elles d'imaginer autre chose. Et du coup, il y a des entreprises même aujourd'hui qui proposent des services pour te mettre en relation avec des personnes concernées et ça va éviter d'avoir cet effet t'entretiens des stéréotypes parce que tu connais pas bien.
Est-ce qu'il faut faire comme chez Electronic Arts par exemple, qui a une responsable inclusivité dans le jeu ? C'est-à-dire que son rôle à elle, c'est de s'assurer que rien ne déborde, mais que tout va être compréhensible sans froisser personne partout dans le monde, dans tous les jeux. Est-ce qu'on ne va pas aussi derrière vers une espèce de neutralité qui pourrait desservir le jeu ?
Moi, je ne suis pas certain que ce soit embêtant. Chez Ubisoft aussi, on a des personnes qui sont... Moi, je fais partie d'une équipe plus large qui est sur les sujets diversité, inclusion et accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, c'est d'abord l'accès au jeu, que les gens puissent déjà pratiquer et qu'il y ait moins de freins à l'entrée possible. De l'autre côté, avec Loisirs Numériques, on a aussi une bourse pour les personnes qui sont issues de milieux ou qui n'ont pas forcément les sous pour accéder à ces études. Donc, à la fin, le but, c'est quand même d'avoir des garde-fous pour justement mettre des alertes en disant attention, là, typiquement, ça peut être considéré comme du racisme ou de l'homophobie. Et puis parce qu'il y a des polémiques qui peuvent surgir lorsqu'un jeu n'est pas très bien fait. Le but est de respecter avant tout les gens et leurs histoires. C'est plus ces garde-fous qui vont à la fin tirer les bonnes sonnettes d'alarme, apprendre ou à laisser, mais d'y aller en connaissance de cause à la fin. Et surtout pas d'arriver déformer les histoires initiales des personnes qui ont envie de raconter leur propre sujet à la fin.
Est-ce que la solution, ce ne serait pas, comme tu disais, surtout de bien écrire, mais pour avoir une meilleure représentativité aussi, d'écrire un rôle qui soit, ou dont le héros soit indifféremment une femme, un homme noir, un handicapé, parce qu'on ne parle pas aussi, je trouve, beaucoup de l'accessibilité. On parle beaucoup de l'accessibilité côté des joueurs pour qui jouent, mais j'en cherche quand même pas mal dans les jeux. Est-ce que ce ne serait pas ça la clé ? Mais avec des personnages qui ont des caractéristiques. Moi, j'ai un souvenir de Assassin's Creed Odyssey, qui est un des jeux que j'adore. Sauf que pour moi, ça n'avait aucun intérêt que ce soit Alexios ou Cassandra, parce que pour moi, c'était le même personnage, en fait. Mais j'aurais aimé qu'une histoire forte, j'ai un personnage féminin avec des traits féminins, désolée de le dire, mais qui soit une héroïne avec une sensibilité différente du héros masculin. Là, j'avais le même. Mais on nous a vanté la diversité.
Oui, non, alors voilà, avoir indifféremment la même histoire que tu as un personnage masculin ou féminin, ça peut pas très bien fonctionner parce que la réalité n'est pas ça. Alors j'entends souvent, oui, mais le jeu vidéo n'est pas là pour refléter la réalité. Certes, mais le jeu vidéo a un impact sur notre façon de percevoir la réalité. Donc on est un peu, si tu veux, dans un numéro d'équilibriste. Qu'est-ce que je voulais dire
Je
disais justement que mettre un perso pareil.
Forcément, un personnage féminin ne devrait pas avoir la même histoire dans le jeu qu'un personnage masculin parce que ses interactions avec les autres personnages ne pourront pas être les mêmes.
Mais ça, pour moi, c'était la force de Syndicate, alors qu'on ne pouvait pas jouer l'un ou l'autre, on les jouait à force, mais les deux personnages étaient différents, en fait, avaient des attributs différents.
Ben, moi, typiquement, c'est très personnel, cette vision, mais je suis un peu contre les avatars dans les jeux vidéo. Le fait de créer son personnage, puisqu'on y met ce qu'on veut, et ça, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Mais à la fin, ce qu'on veut, c'est des histoires qui nous marquent. Donc, soit des expériences multijoueurs qui vont permettre d'explorer les relations sociales et les interactions dans le jeu, d'avoir le jeu comme vecteur, soit d'avoir justement, comme tu le disais avec The Last of Us, une histoire très personnelle sur laquelle on est d'accord ou pas par rapport aux situations, mais c'est l'histoire d'un personnage et avec les interactions virtuelles qui auront à la fin un début, un milieu, une fin. Et après, évidemment, il y aura des ramifications dans tout ça, mais les histoires les mieux craftées, les mieux écrites, c'est celles qui vont nous marquer à la fin et qu'on pourra raconter 10 ans, 20 ans après.
Dernière question pour finir. On en est où de la représentativité alors pour vous ? On est sur le bon chemin ? Il y a encore du boulot ?
En jeu ?
Ouais, dans le jeu vidéo.
Non, en jeu, il y a encore du chemin à faire. On a sorti une infographie chez Women in Games la semaine passée et on n'a clairement pas beaucoup de jeux où on peut... bien sûr, je ne me souviens jamais des chiffres.
on ira les voir, ils sont sur le compte Twitter, j'ai vu, de
Women in
Games.
Je crois qu'on n'a que 22% de jeux qui ont comme personnage principal un personnage féminin sur les dernières années. Et puis, en termes de représentation, on a aussi beaucoup de clichés, de stéréotypes. Mais pour nous... Je pense que Michael a la même analyse. C'est si tu arrives à changer ce qui se passe dans les équipes, si tu as plus de diversité dans les équipes, du coup, tu as une plus grande richesse créative, plus de points de vue différents aussi, qui te permettront d'avoir des jeux qui reflèteront mieux cette diversité au sens large.
Oui, absolument. Et je pense que c'est... En fait, c'est ça. En réalité, le jeu vidéo doit être divers par essence. C'est-à-dire que quand on prend n'importe quel jeu, on veut différentes situations, on veut différents personnages. Si on avait exactement copié-collé tous les mêmes personnages dans tel ou tel jeu, on s'ennuierait très très vite. Donc par nature, le jeu vidéo est divers. Le tout est de mieux le faire. Et en ce sens que tu demandais où est-ce qu'on en est, je pense qu'effectivement, on peut toujours mieux faire. Il faut toujours mieux faire, et donc s'entourer des personnes qui connaissent, qui ont envie de raconter d'autres histoires, qui ont aussi leur propre garde-fous. Le jeu vidéo est globalisé, donc c'est hyper important que tout le monde, même si un jeu ne parlera peut-être pas à tout le monde systématiquement, de sortir plusieurs afin de couvrir le plus large spectre de personnes.
Vous avez été parfait. Je réalise qu'on aurait pu faire une heure sur ce sujet.
On revient quand
vous serez obligé de revenir, hein, parce que là, en plus, on a éclaté le temps. Mais non, c'est pas grave. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus partager et votre expérience et votre connaissance du milieu.
Avec plaisir.
Morgane, hein, oui. On te retrouve bientôt. Et on peut te suivre aussi, parce que tu joues et que je sais que de temps en temps, tu streams.
Ouais, alors, beaucoup moins. Ça, c'était là pendant le Covid, mais ouais.
Donc voilà, bah, on se retrouve en tout cas pour nous parler de plein de jeux. On suit Women in Games. Vous avez des opérations à venir, des choses?
On est en train de travailler sur une étude pour justement aller dans plus de granularité sur le chiffre, la part des femmes dans les entreprises du jeu vidéo, pas que les studios, connaître mieux leur parcours et leur vécu. Donc, ça devrait sortir en fin d'année.
Et ben voilà, rendez-vous pris. Bon, Mickaël, on te retrouve ce week-end.
Oui, des Airbus de l'espoir. On va essayer de dormir le moins longtemps possible pour tenir.
Et, ouais. Faut pas planter le bus. Hein.
Exactement, faut pas planter le bus.
Ça, c'est ma pression du week-end. merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Multijoueur. On espère vous avoir appris plein de choses. Et vous le savez, si vous avez envie d'aller dans le jeu vidéo, vous avez vu, on a deux experts qui peuvent vous orienter. N'hésitez pas à les contacter, je filerai leurs coordonnées. Vous pouvez retrouver en tout cas cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube. Et évidemment en podcast dans toutes les bonnes crèmeries. Et puis on se dit, nous, à très vite pour reparler des jeux, on l'espère, qui vont plaire à tout le monde. En attendant, jouez bien et à très vite.